One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
SLP, salut les PD, c'est parti, on embarque. Troisième émission haute en couleur. Salut Ariane, salut Ghislain.
Bonjour les copains, copines.
Ça va? On est content de te retrouver, Ghislain, parce que tu nous as fait faux bond quand même ces deux dernières émissions.
Oui, mais la grand-mère de mon poisson rouge a eu un malaise en sortant de l'ascenseur, donc voilà, j'ai pas pu.
Tu n'étais pas raccord, le poisson aurait dû être rose ou bleu. Hein.
Ben, ouais, chacun ses couleurs.
Troisième émission, violet aujourd'hui. On va commencer par des généralités, des banalités. Ça vous dit, pour une fois?
Présenté comme ça, je sais pas.
On ne peut pas parler tout de suite de la Vendor Menace ou de Violette
Leduc.
Non,
plus tard, Ariane. Les bonnes choses pour la fin.
Bon.
Ok.
C'est les préliminaires. Alors, pourquoi les préliminaires devraient-ils être ennuyeux?
Ils ne vont pas être ennuyeux. Bah non, on va tout faire pour qu'ils ne le soient pas. Donc, le violet, qu'est-ce que ça vous évoque, le violet, comme ça?
Bah, pas des généralités, donc vas-y, lis-nous les généralités.
Bon, les généralités, violet. Violet, c'est la couleur, soi-disant, secondaire, qui, sous le cercle chromatique, prend place entre le magenta et le bleu. Pour la théorie ondulatoire de la lumière, la bande violette est une des extrémités du spectre visible, son rayonnement se situant entre le bleu et l'ultraviolet. Voilà, ça c'est le début de l'article sur le violet dans Wikipédia. Après, d'un point de vue symbolique, longtemps la couleur violette a été mal considérée. Elle symbolisait la fourberie et la tristesse et était associée à la pénitence et à l'affliction. Tout un programme, ça peut être fun, hein, remarquez ça aussi, non?
Oui, pénitence, affliction.
Oui. Ouais. Elle était souvent confondue avec le noir jusqu'à son identification sur le spectre solaire entre le rouge et le bleu par Newton. Voilà, au Moyen-Âge, le violet était dénommé sous-noir ou demi-noir. Dans le demi-deuil, une nuance sombre violette était autorisée après un an de noir intégral. Sympa, hein?
Ouais, c'est cool, on pouvait mettre de la couleur. Mmh. Non mais c'est rigolo de voir qu'en fait, pour les gens, c'était du noir.
Oui.
Parce que pour nous, c'est, enfin, tu confonds pas le violet et le noir, quoi.
Ouais, alors est-ce que notre acuité visuelle s'est développée?
Non, moi je pense que c'est... Enfin, je pense pas qu'on ait mélangé tous les violets avec le noir, tu vois. Puis t'as des espaces où le parme est considéré comme rose, par exemple. Donc c'est la relativité des choses, comme les gens qui se disputent sur les turquoises, est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est vert, machin. C'est aussi... quand tu vois le violet épiscopal, par exemple, ouais, il est assez foncé. Mmh. Donc si tu en prends un encore plus foncé et que tu l'associes à ce type de vêtements un peu rituel... je peux comprendre qu'on puisse considérer que, voilà, après ça dépend aussi techniquement comment on avait les teintes violettes et si c'était vraiment des teintes très sombres qu'elles aient pu être
confondues avec le noir, voilà. Ça peut se comprendre. Ouais. Ouais.
En costume, le violet, c'est la couleur du pouvoir, c'est ce qu'on utilise pour signaler quelqu'un qui a du pouvoir.
Le vert foncé aussi, non?
En spectacle, on
évite le vert. C'est un peu déconseillé
vert,
sur
ouais.
scène, non?
Ouais.
En France.
En France, ouais.
Ouais. Ouais. C'est très. C'est alors, comme tu dis pas Macbeth dans un théâtre en Angleterre. Attention, je vous préviens.
Ouais.
Ah ouais, ça porte malheur.
D'accord.
Donc tu dis jamais le nom de la pièce. Tu peux la jouer, hein, mais si
tu dis pas le nom de la pièce, ouais. Ben voilà, donc le violet, voilà, c'est le pouvoir. C'est quelque chose qui est vraiment qui désigne le pouvoir. Et sinon, c'est aussi un symbole d'harmonisation, de spiritualité. C'est une couleur qui est censée apaiser, qui est beaucoup associé à la lavande, au parfum de la lavande, et la lavande en aromathérapie, c'est quelque chose qui...
fait bien dormir.
Voilà, qui apaise beaucoup.
Oui, tu as raison.
Je confirme.
Oui, ouais, tu confirmes. Tu parles d'expérience, on dirait.
Absolument.
Voilà, c'est quelque chose qui relaxe.
Avec du pavot, ça marche mieux.
Mais... Le pavot, tu le fumes ou...
Non, en infusion avec la lavande.
En infusion avec la lavande.
Ah ouais.
D'accord.
Et une fois, j'ai très très bien dormi, j'en ai eu peur.
Là, c'est la couleur de la spiritualité aussi. Qui fait
oui,
des
il y a toujours le côté mystique. Ouais, ouais. Voilà. Après, le côté apaisant, c'est aussi le fait que, quand tu as dit soi-disant secondaire, ça me fait rigoler, parce que oui, techniquement, ce n'est pas une couleur primaire, voilà. Que ce soit d'un point de vue optique ou du point de vue pictural, le violet est le fruit du mélange entre deux couleurs primaires. Mmh. Donc en ça, c'est une couleur secondaire. Et c'est vrai que quand tous les... Tout le côté de quand on réfléchit aux couleurs pour un lieu qui accueille tel type de personnes, etc., c'est vrai qu'on a plutôt tendance à utiliser des couleurs, tu vois, un orangé, un mauve, voilà, éviter certains verts qui vont être trop froids, donc voilà.
C'est une couleur qui peut être ressentie comme accueillante, c'est ça que tu veux nous dire?
C'est au niveau calmant, c'est-à-dire que, imagine, t'es dans une pièce où t'as deux murs rouges et deux murs bleus pour travailler toute la journée, je pense qu'à un moment tu deviens un peu speed, surtout si t'as la machine à café dans le même endroit, alors que si t'as des... voilà. Donc ce sont des choses qui ont été... voilà, il y a eu des études, maintenant ça doit faire une dizaine d'années, où c'était... Donc un vert un peu amande ou certains mauves, certains orangés qui allaient voilà, pour certaines ambiances de travail qui étaient le plus propices sur, au niveau de la mesure de concentration, surtout l'état de stress des personnes qui travaillaient dans les lieux avec
plutôt
des tâches
apaisant.
Similaires.
Ouais.
Après, ça dépend aussi si tu mets plus de bleu ou plus de rouge dans tes mélanges. Quoi. Tu peux passer une couleur assez froide et une couleur plutôt chaude et chaleureuse.
Oui, après, voilà. Donc, en fait, c'est là où. C'est une couleur qui peut, en fonction, encore une fois, des nuances qu'elle peut avoir, qui peut du coup faire ressentir des états relativement différents.
Et puis bon, après, tu as aussi tout le côté personnel de à quoi tu l'associes, puisque oui, en effet, ça fait des teintes extrêmement différentes, du froid au chaud, aller à se confondre avec le noir, aller du côté presque des roses. Et du coup, on a... Puis bon, t'as tout le côté vraiment personnel où t'as des souvenirs attachés à des couleurs qui diffèrent très fortement, quoi.
Et mon petit doigt m'a dit que les fois dernières, tu nous avais fait des nuances.
Oui, mais ton petit doigt écoute la radio.
Mais mon petit doigt écoute la radio, bien sûr. Et il me dit tout.
Alors, on se fait une petite séquence nuance.
Bah, j'ai droit à une nappe. C'était quoi la nappe tout à l'heure?
La nappe, c'était Purple Haze... De... Là, j'ai un gros trou. Jimi Hendrix, qu'on a entendu tout à l'heure. Allez, on se fait une petite nappe musicale avec des nuances que Ariane va nous dire.
Alors ça, on sait qui c'est. Hein. Le premier accord, on sait que c'est Purple Rain. L'artiste anciennement connu comme étant l'artiste anciennement connu en tant que Prince, c'est ça qu'il
c'est
faut
ça,
dire maintenant.
C'est un peu ça, oui.
Ah, c'est trop beau. Oh là là, améthyste, byzantin, cassis, colombin, glycine, héliotrope, lilas, magenta foncé, mauve, orchidée, parme, prune, violet, d'évêque. Attention, rigole pas. Violine, zinzolin. C'est pas mignon,
zinzolin.
Zinzolin.
Il y en a d'autres, hein.
Non, ça suffit.
Ça
parce
suffit,
que, écoute.
Sinon, moi, j'ai des trucs violets.
Des trucs violets ouais.
Ah, mon Dieu.
Bah ouais, l'améthyste.
Je l'ai déjà dit, copieur.
Le permanganate de potassium.
Ah, ça, c'est vachement bien, ça, le permanganate. Alors, tu vois, ça, c'est un truc qui est complètement magique. C'est-à-dire, c'est une poudre violette, donc, et on l'utilise en costume pour vieillir les blancs, pour casser les blancs, parce que tu trempes quelque chose de blanc dans le permanganate de potassium.
Il prend
tu
une...
fais ça un te fait un brun, en fait.
D'accord. Tu le ressors, et en fait, ça te casse ton blanc. Et plus tu le laisses longtemps, plus ça devient blanc. Plus ça devient brun, je veux dire, pardon.
Ça devient brun, en fait.
Mais c'est le truc magique, quoi. T'as un truc qui sort, qui est violet, et en fait, non, il est blanc cassé après.
Magnifique.
La magie de la chimie, c'est merveilleux.
Sinon, il y a aubergine, betterave, chou, iris, lavande, tu l'as dit, la mûre, la myrtille, etc. Enfin bon, on peut décliner. Je vous propose aussi, dans le langage des fleurs, parce qu'on va parler après de... ouais, quel enthousiasme formidable.
Non, attends.
Violette.
Bah oui, il y en a des violettes.
Il y en a des violettes.
Bah oui.
Mais tu sais ce que ça veut dire au départ,
mais je t'en
le
prie,
bouquet de violettes. Alors la violette symbolise...
Parce que l'amour est un bouquet de violettes.
Est un bouquet.
Non.
C'est... Bon, on va dire que ça en découle, mais d'abord c'est la modestie, l'humilité et effectivement l'amour, mais un amour qu'on qualifie de secret. Offrir un bouquet de violettes est un geste empli d'humilité qui rappelle la discrétion de cette petite fleur sauvage. Mais on y reviendra plus tard, Ariane, je crois.
Quand tu me dis que je peux, je le fais.
Et bah, tu le fais maintenant, puis on fera la pause musicale après, ok?
Alors je vais vous lire un poème de René Vivien qui a été appelé aussi la muse aux violettes. Entre autres pour ceci. Je place sous la protection des violettes mes adorations très humblement muettes. Ô vous les violettes, vous qui savez par la puissance du parfum évoquer telle voix, tel long regard brun, puissance du parfum. Exaucez le grand cri de celle qui vous aime et sachez parfumer ma vie et mon poème, sachant que je vous aime. Je suis lasse des lys, je suis lasse des roses. Désolée, ça s'est éteint mon écran, c'était horrible. Je suis lasse des lys, je suis lasse des roses, de leur haute splendeur, de leurs fraîcheurs écloses, de toute la beauté de grands lys et des roses. Votre odeur s'exaspère en l'ombre et dans le soir, violette aux fleurs douces au désespoir, violette du soir.
Magnifique.
C'est qui René Vivien ?
René Vivien, c'est une auteure lesbienne.
C'était important de préciser.
Oui, si tu veux.
C'est un teasing pour la suite.
D'accord, si tu veux, parce qu'il y en a d'autres des violettes, il y en a plein des violettes, ouais, il y a même une librairie violette.
Ouais.
On laisse passer une sympathisante lesbienne et on se retrouve après la pause musicale.
Chiche.
You should learn how to say no.
Mine is forever. SLP, la émission.
Voilà, violet, c'est aussi la couleur des bleus, comme le suggère harmonieusement Courtney Love.
Voilà, et là, tout à coup, on quitte le côté tout à fait chétif, tu vois, discret, oui, et tout ça, pour passer à autre chose.
Voilà.
Qui est plus... Alors,
on a parlé de la violette avant la pause musicale, et
oui,
tu vas continuer à nous en parler.
Ouais, je vous parlais, donc il y a une librairie à Paris, métro Charonne, qui s'appelle Violette & Co. Donc, c'est un titre qui est construit mêlé de plein de références. Donc, Enco, ça évoque Shakespeare & Co, librairie historique citée par Anaïs Nin et d'autres, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Et en fait, cette librairie, elle était tenue par Sylvia Beach, qui était en couple avec une autre libraire, Adrienne Monnier. Donc voilà, il y a ce côté-là pour le côté vraiment le livre. Il y a aussi donc une autre auteure, Violette Leduc, hein, dont Thérèse et Isabelle restent une œuvre majeure dans la littérature lesbienne. En effet, donc la Violette la fleur a été aussi un signe de reconnaissance comme le Menocle en d'autres temps, comme l'a chanté Juliette par exemple.
Les lesbiennes donc.
Voilà. Mmh. Et puis Violette, c'est aussi un prénom. Mmh. Donc pas que de Violette Leduc, mais bon, un des premier gros film à mettre des personnages lesbiens à la une, et en plus voilà, par des réalisateurs qui ont eu un succès assez tonitruant ensuite, c'est Bound. Donc il y a un des deux personnages lesbiens dans Bound
qui s'appelle Violette. Hein. Ah ouais. Ouais, j'avais oublié
voilà.
Ça.
Donc film de la fratrie Sorori-Wachowski.
Ouais, Wachowski.
Voilà. J'ai rien oublié. Parce que ça fait un paquet de trucs, déjà, j'ai tout.
Ouais,
et puis tu vas tout dire en deux phrases, quoi. Wow.
Ouais, formidable. et puisque t'es lancé, là, on fait une deuxième partie plus politique, on va dire.
Ouais, mais
tu voulais
même,
nous parler
j'ai le droit,
de Lavender Menace.
Lavender Menace, alors, Lavender Menace,
c'est... Lesbienne activiste des années 70, c'est ça?
Voilà, c'est un groupe qui s'est formé... Enfin voilà, comme c'est arrivé en France, en fait, il y a eu des dissensions dans les mouvements féministes sur la question de mettre en avant ou pas les luttes soi-disant spécifiquement lesbiennes.
Ouais.
Et donc il y avait une grosse organisation aux États-Unis qu'on raccourcit en NOW pour National Organization for Women. Et donc il y a Rita Mae Brown. Moi, je me suis toujours demandé si Oda Mae Brown, le personnage dans Ghost, de je sais, tu te rappelles pas qu'elle s'appelle Oda Mae Brown ou Whoopi Goldberg dans Ghost?
Pas... Ah ouais? Non,
ouais, elle signe, tu sais, elle doit signer pour récupérer des sous et elle veut signer Oda Mae. Enfin, je me rappelle. Et donc, je me demandais si
peut-être.
C'était pas un lien avec Rita
Goldberg,
Mae Brown.
Quand même, c'est possible. Hein.
Ouais, voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a eu voilà, des groupes qui se sont un petit peu séparés autour de ce genre de. Un petit peu les mêmes difficultés qu'il y a eu en France, hein, d'ailleurs. Et donc, l'expression Lavender Menace, puisque donc la couleur était déjà associée. Et c'était une façon déjà de récupérer le questionnement de est-ce que les questions lesbiennes j'ai envie de parler anglais, c'est bizarre, est-ce que les questions lesbiennes sont une menace pour les revendications féministes en général? Et donc voilà, c'est déjà une façon de le récupérer, de s'appeler, de se rapproprier cette question de menace, donc Lavender Menace.
D'accord.
Et elles ont fait quoi alors, ces filles?
Alors attends, faut que je vérifie parce que...
Quoi, tu veux dire que là, tu es en train de lire tes fiches?
Ouais, complètement. Et en fait, j'ai pas écrit de choses tonitruantes sur mes fiches, donc bah t'auras qu'à chercher.
Bah d'accord. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant que cette petite fleur, cette petite couleur spirituelle, machin, et tout ça...
Et discrète aussi, qu'on a entendu tout à l'heure.
Et discrète, tu vois, ça devient un truc politique, revendicatif et...
Et plus arrogant. En fait, avec.
Un peu plus, ouais.
Avec
mais c'est la question de la récupération, ouais. Ouais, c'est.
Et voilà, en même temps, très discret, parce que si tu connais pas tout ça, tu vois, moi, quand j'ai écouté Monocle, l'école dure de Juliette, je comprenais pas pourquoi elle faisait allusion à la violette, à ce genre de choses-là, tu vois, je comprenais pas, j'ai compris après. Donc c'est.
Mais c'est vrai que, tu vois, on a pas mal parlé de Michel Pastoureau les semaines passées, et il a travaillé aussi sur le violet, et il dit absolument rien de l'association de cette couleur avec une visibilité ou une reconnaissance lesbienne. C'est absent de son travail, quoi.
Peut-être que c'est à venir, c'est quelque chose qu'il est en train d'explorer, on ne sait pas. Ou alors, faut lui
ou alors il en a rien à foutre,
ou
parce
alors
que
c'est
possible
aussi.
Un homme cis hétérosexuel, et voilà.
Tu crois?
J'en sais rien.
Alors, puisqu'on est dans une partie politique, moi, du coup, je me suis souvenu aussi, sans remonter très, très, très loin, dans les archives, c'est même pas de SLP, c'est de l'émission qu'on faisait avant, qui était diffusée sur
Divergence
FM. Et on avait reçu à l'époque, elle s'appelait Ripilaf et Bouillon-Cul, tu te souviens de ça?
RPBK.
RPBK.
Oui, oui, je me souviens voilà. très bien de RPBK.
Et en
moi, je m'en 2001, souviens pas, j'étais pas
née. Je pense, 2001, tu n'étais pas née, non, bah ouais.
Radiophoniquement, je veux dire.
Je crois que c'était en 2000 ou 2001, en tous les cas, c'était avant les élections présidentielles de 2002, on avait reçu Geneviève Pastre, donc femme de lettres, mais aussi très engagée politiquement, puisque c'était à l'époque où elle avait tenté, enfin elle avait plus que tenté, puis ils avaient monté
un... ils se sont présentés même au municipal à Paris et tout.
Ouais, ils se sont présentés au municipal à Paris sous une étiquette, le parti des politides ou des mauves. Mauve, donc mauve violet, on n'est pas très très loin. Voilà.
Et ou lavender, hein,
ou lavender, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, j'ai retrouvé une sorte de profession de foi et de programme politique, et je me suis dit que c'était assez hallucinant parce que ça fait
parce
quand même
10 ans. Parce qu'il l'a surligné en violet,
ça.
C'est ça
oui,
qui est
oui,
beau.
Mais c'est ça. Mais
faut
tu
le
sais...
dire à la radio, oui. Il a surligné voilà. le truc en violet, c'est magnifique.
Alors, il est très raccord et très cohérent, Philippe, tu sais, c'est...
Ça date
c'est
de juillet 99.
C'est son côté psychorigide, tu sais.
Ça y est.
Ah, c'était bien
bon,
quand t'étais
juste
pas là,
là tu vas
gars.
Nous lire le programme, du coup.
Je vais peut-être pas vous lire le programme en entier, non.
Donc, ça date de juillet 99. Et, alors...
Il s'écrit dessus, tu vois, tu cherchais la date.
C'est écrit dessus, tout à fait. Écrit par Louis Georgetin et Geneviève Pastre. Voilà, donc tu peux choisir parmi tout ce que j'ai surligné de façon psychorigide. Parce qu'il y a des choses intéressantes, à mon avis, aujourd'hui, qui restent totalement d'actualité, notamment sur les différents points de leur programme.
Ouais. Bah, par exemple,
je trouve que ça vaut le coup de réentendre ça aujourd'hui, quoi.
Ouais, parce que ça date donc de 99. Donc, par exemple, dans leur programme, ils disent « Repenser et refonder la famille, non sur la stricte biologie, mais en y intégrant le désir, la liberté et le bonheur des êtres concernés. Aujourd'hui comme hier, les cadres juridiques doivent prendre en considération les évolutions sociales, les familles recomposées, les conjugalités diverses, homo ou hétérosexuelles. Les familles homoparentales manifestent des modalités diverses, également légitimes du bonheur familial, que l'État ne saurait aucunement discriminer. » C'est intéressant. 99.
Ouais.
Hein. Repenser et refonder les identités nationales et culturelles, persuader que nous sommes que les différences, loin de menacer l'unité nationale, l'enrichissent au contraire. Cette diversité qu'exploitent les partis réactionnaires en agitant sans cesse l'épouvantail fantasmatique de l'immigration fait au contraire le sel et l'avenir de ce pays que guettent la sclérose et les gangrènes. C'est ce même refus des différences ethniques ou religieuses dans sa logique extrême qui inspirait hier l'attitude inqualifiable des dirigeants serbes.
Ça calme.
Ça calme, ouais. Hein. Et alors, dans...
Bon, en même temps, c'est stimulant, mais d'un autre côté, quand on voit, voilà, ça date de 99 et comment certaines choses ont pu avoir du mal à passer cette année, ouais, ça fait mal au cul, en fait.
Et un peu plus en amont, dans leur déclaration d'intention, il y a un truc qui m'a fortement intéressé et interpellé aussi, c'est... alors, ils posent la question, quel est notre fondement philosophique ? Voilà la réponse. L'homme est plus grand que le citoyen. Nous avons fait cette formule de Thoreau, l'auteur américain. Si l'état de droit, la démocratie sont un progrès incontestable par rapport aux dictatures et aux autres systèmes d'organisation des êtres humains, il n'en reste pas moins que l'être humain ne se confond pas totalement avec le citoyen. Il doit être libre et apte à repenser cette notion de citoyen, à se penser soi-même, et au lieu de suivre les lois aveuglément, par peur ou même par principe, comme Socrate, à savoir sur quoi fonder ses devoirs et ses droits. Ça vous inspire pas, ça ?
Moi, j'aime bien.
Moi,
je comprends pas tout encore, mais j'aime bien.
Moi, ça me fait penser à ce que j'ai lu d'un texte antérieur de 17 ans par rapport à celui-ci.
Oui.
Et ouais, ça me donne envie vraiment de retourner la table, quoi. Comme ce qu'on avait lu de Monique Wittig, que dans les luttes contre le racisme, on avait aboli le critère race dans les registres d'état civil. Et que personne ne semblait penser à en faire autant pour le critère sexe. Et qu'attendons-nous pour le faire, quoi. Parce qu'il y a des choses, voilà, par rapport à ce qui vient de se passer ces mois derniers, on se dit « Waouh, c'est énorme et tout ». Mais en fait, il n'y a rien de nouveau là-dedans.
Bah, il n'y a rien de nouveau, ou alors c'est un tout petit point de départ pour des révolutions qui sont à venir, mais voilà, c'est il y a énormément à faire. Alors je sais pas, mauve, violet, peut-être une couleur d'avenir.
Bah, il y a intérêt, hein, parce que sinon, on va avoir de la chemise brune, quoi. Hein.
La chemise brune, alors, c'est pour la semaine prochaine.
C'est pour la semaine prochaine, tu vois, elle est incroyable. Hein,
incroyable.
Comme... Mm. Ah, mais je suis pas d'accord, moi, faut pas confondre le noir et le brun, hein. Il y en a qui mélangent le violet et le noir, mais attention, le noir et le brun, c'est pas pareil.
Ah,
bah,
on en parle la semaine prochaine, ok.
Ouais.
On se retrouve la semaine prochaine.
Chiche.
Ciao.